Maître Didier Sanson, notre maître métal. Bon vendredi matin.
Salut, Reg.
T'as de l'air en
feu. Il a l'air en feu.
T'as de l'air en pleine forme. Fait qu'on est...
New look.
Sais-tu? Ouais,
je suis un bonhomme. J'ai eu 46, puis je vois plus de l'air. Fait que là, écoute...
C'est
jeune bonhomme.
C'est-tu vrai? C'est-tu nouveau?
Oui, c'est récent.
Avoir des lunettes?
Oui, ça fait déjà, tu sais, il y a un an, je regardais dans le noir. Fait que là, je me dis, je vais mettre la lumière pour lire les affaires en arrière des petits plats. Fait que là, je dis, avec la lumière, c'est correct. Mais cette année, lumière, pas de lumière, oublie ça.
Fini.
Ça te donne-tu un nouveau look en cours? Là? Ça te donne-tu nouveau edge intellectuel?
Oui, ben en tout cas, c'est depuis cette semaine, oui. Puis c'est avec les événements. On pourrait dire ça avec ce qui se passe en cours. Ça,
ouais.
ça m'aide.
Ça t'aide, hein?
Je suis sorti de la bibliothèque voir ce qui se passe.
Maître Sanson, Maître Métal, on a quelques trucs pour vous, évidemment, cette semaine. Regarde, j'aimerais qu'on commence avec toutes ces histoires-là de libération qu'on va voir dans différents cas. T'sais, pourquoi on décide de garder quelqu'un qui a fait parfois même un crime majeur, peut-être même meurtre, agression? Comment on prend la décision de garder cette personne-là, comme on dit, en dedans, et comment on décide qu'on va libérer la personne, même en y donnant certaines conditions? Comment ça se prend, cette décision-là?
Bien, au départ, il y a des organismes qui sont de régulation pour ça.
OK.
Bon, les peines de 6 mois moins un jour, ça va être une prison provinciale qui va décider, avec ses critères, est-ce qu'on garde la personne incarcéré jusqu'à la fin de sa peine, ou est-ce qu'on la laisse sortir? Il y a des critères de la prison.
Entre autres, comment on se comporte derrière les barreaux?
Notamment. Okay. Bon, la personne a fait toute son affaire. Elle est là pour 4 mois. Bon, qu'est-ce qu'elle fait dans un secteur? Elle fonctionne bien. Il n'y a pas de rapport disciplinaire. Elle a fait tel genre de crime qui n'est pas si pire. T'sais, je veux dire, 6 mois moins un jour. Okay. Ça, c'est généralement ça, il va y avoir des avocats qui peuvent assister, je crois, avec la prison, là, avec ceux qui vont décider au niveau de la prison, à savoir est-ce qu'on libère ou on garde.
Okay.
Quand tu es à 6 mois jusqu'à 2 ans moins un jour, là, tu deviens sous la juridiction de la Commission des libérations québécoises. Fait que ça, il y a encore une fois un paquet de critères. La commission va s'insérer dans le dossier. Il va avoir une permission d'absence temporaire qu'on appelle le sixième. Le tiers, où est-ce que c'est la libération conditionnelle ou lorsque la commission accorde une libération conditionnelle, qu'il soit avec condition ou sans condition, la personne appartient à la commission des libérations conditionnelles pour la totalité de sa peine et la commission va décider, bon, ben regarde, après 4 mois sur 23 mois ou 5 mois ou 6 mois, peu importe, la personne devient au tiers admissible. Là, je ne ferai pas de calcul en même temps, mais tu comprends ce que je veux dire. Ça, mettons que tu prends 23 mois à peu près, bon, ben c'est 3 fois 8 mois, 24 mois, 24 mois moins 1. Après le premier 8 mois, est-ce qu'on fait confiance et tranquillement, le but, c'est la réhabilitation, la réinsertion sociale.
C'est ce qu'on vise.
Exactement. La punition, le paiement de la dette part du temps, et après, comment on réintègre la société. Donc, encore une fois, avec la commission, de ce que je sais, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le PIC, le plan d'intervention correctionnelle, à ne pas confondre avec ce qui se passe.
Le
plan d'intervention correctionnelle, qui est généralement la personne, lorsqu'elle est sentencée, va avoir un titulaire, c'est-à-dire en prison, un agent correctionnel qui va suivre son cas, qui va faire une gestion de cas. Puis il va se développer ce qu'on appelle un plan d'intervention correctionnelle. C'est-à-dire, bon, ben, j'ai une personne qui a commis un crime de vendre la dope, mais c'est une personne qui a des problèmes de consommation. Donc, en étant arrêté, bon, il y a un arrêt d'agir dans la mesure où on présume fortement qu'il n'y a pas de consommation en dedans.
Supposé.
Bon, la personne, ça fait déjà 3 mois qu'elle est sobre. Là, j'ai repris contact avec ma famille. Ça faisait 2 ans, je ne les avais pas parlé. Ah, tiens. Fait que là, on a comme un filet social plus proche, moral. J'ai reparlé avec un de mes boss pour qui j'ai travaillé il y a 10 ans. J'avais travaillé 10 ans, il est prêt à me reprendre. Oh, on a une amorce de pouvoir se valoriser dans une économie légale. Puis là-dedans, bon, ben la personne va continuer des meetings, va continuer patati patata. Donc, son plan d'intervention correctionnelle va être complet relativement à ses facteurs criminogènes. C'est-à-dire, je suis un criminel. Pas moi, là, je te parle, là. Mais tout ce qu'on... Au pire, tu le prouveras. Mais... je suis un criminel toxicogène, c'est-à-dire que je suis dans les stupéfiants, je les consomme, je les vends quand je suis dans ce monde-là, je me désorganise, mais je m'organise dans une économie illégale. Bon, mais là, quand tu as neutralisé les facteurs de risque, on appelle, ben, tu vas amoindrir le risque de récidive. Donc, tu vas être plus sûr avec un plan d'intervention correctionnelle qui est bien monté, d'accrocher cette personne-là dans une économie légale, puis de réinsérer dans la société, puis redevenir un actif.
Mais Didier, on prend tout le temps le risque quand même que le détenu rendu ex-détenu ne retombe pas, ne replonge pas dans le monde du crime. Comme c'est toujours un risque qu'on prend en souhaitant qu'on a bien fait les choses, que les conditions vont être respectées, puis que l'individu ne va pas replonger dans le monde du crime.
Si tu le regardes rendu où est-ce que je te parle, oui, sauf que tu sais le choix de société qui est fait au départ, c'est de la réhabilitation.
C'est ça.
Fait qu'à ce niveau-là, si tu es toujours en train de penser que tu prends un risque dans tout ce que tu fais, il n'y a pas grand-chose de solide. Maintenant, il y a une orientation sociale qui dit, c'est un peu comme dans les pays nordiques en Scandinavie, où est-ce que c'est ce qui est valorisé. Dans la loi, quand tu veux punir, c'est-à-dire dissuader, ça c'est un des critères dans la loi, je te punis, on envoie un message, t'as fait ça, t'as pas de dossier, mais ce que t'as fait, tu t'en vas dedans. Puis te l'as isolé au besoin. Ça c'est quand quelqu'un qui est ultra dangereux, on peut pas laisser cette personne-là outside. Mais oui, tu prends un risque, mais non, tu prends pas de risque, parce que c'est la vocation du système.
C'est le but à la base.
Le but, c'est pas de te garder en prison. Je veux dire, si tu vas aller, tu sais... C'est pas ça. Il y a des pays qui sont basés sur l'incarcération comme étant la règle, comme tu vas voir dans certaines infractions, où est-ce qu'au départ, ça va être la détention qui est ordonnée et ça sera à toi de démontrer que tu dois être libéré, alors que le contraire, c'est un peu dire, ben moi, j'ai la liberté, c'est la règle, l'exception, c'est la détention. C'est la même chose avec la réhabilitation, c'est la règle. Puis de pas pouvoir la permettre, ça va être l'exception. Puis oui, les gens qui vont évaluer les cas, dans certains cas, vont prendre des risques, surtout dans ce que la criminalité violente.
Ouais.
Là, on parle de libération après la peine.
Oui.
Il y a autre chose qui peut être technique, c'est à quel moment, tu sais, on le voit souvent les derniers jours, il y a arrestation, puis là, des fois, on va dire « a été libéré en attendant le procès », des fois, on va dire « qu'il reste en prison jusqu'à son enquête sur remise en liberté ». Ça, c'est complètement différent. Comment on va juger si quelqu'un est libre de retourner à l'extérieur en attendant son procès ou s'il doit rester en dedans?
Bon, ça, c'est un point différent. C'est plus en amont dans le processus judiciaire. À partir du moment où tu es accusé, que ce soit par dénonciation, sommation ou mandat d'arrestation, c'est-à-dire, ben, je t'ai arrêté, pas de mandat, la couronne, dans les 24 heures, t'a fait comparaître parce qu'il a attaqueuse ou il y a un mandat, ça veut dire qu'il y avait assez de preuves, on va le chercher.
Okay.
Bon, mais l'étape, c'est la comparution. À la comparution, la couronne va dire, moi, je m'objecte à ta remise en liberté. Dans certains cas, ça va être à toi de démontrer. C'est-à-dire, regarde, moi, je suis pas dangereux, j'ai une job, j'ai mon père, ma mère qui sont là pour cautionner, je verrai plus ces gens-là, patati patata. Bon, ça, c'est quand c'est toi qu'il faut qu'elle le montre, il y a des infractions. Mais la règle, c'est, écoute, moi, monsieur le juge, je suis prêt à rentrer chez nous à 2 heures. Est-ce qu'on me reproche d'arriver la nuit? Je suis prêt à rentrer, c'est-à-dire de 10 heures à 6 heures, je serai pas dehors, ça va contrôler le risque. J'aille délirer dans la rue et casser des vitres, par exemple. T'es accusé de méfait la nuit, le gars sort la nuit, il casse les vitres, il est plus capable de s'empêcher.
Ouais.
Bon, mais casser des vitres, t'es pas en train de faire sauter une banque, là, tu comprends? Fait ils vont mesurer c'est quoi, c'est-tu grave, c'est-tu pas grave? Puis ils vont te donner un caution si tu présentes un cautionnement raisonnable. Si tu es prêt à signer des conditions, déposer de l'argent, présenter quelqu'un qui va dire « je m'engage pour que cette personne-là, monsieur le juge, respecte ses conditions ».
Tu as des cases à cocher. Là.
Ça, c'est provisoire. Pourquoi provisoire? C'est qu'ultimement, il va avoir le processus judiciaire qui va être l'étape du procès. Soit que tu vas plaider coupable ou que tu vas faire un procès. Fait que provisoire, ça veut dire que toi, quand tu es accusé, le système met une épée sur ta tête. Tant que cette épée est là, tu vas suivre ce qu'on va te dire.
Ouais.
Puis c'est sérieux. Parce que si on t'arrête puis tu brises ça, on va te ramener devant la cour.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les anciens meurtriers. Putain, on le voit, là. Puis non.
Mais... Dis de même, là. Salut, Jeff. Hey, bon vendredi.
Ouais, ben, un tueur si proche. Je donne un exemple. Début du mois, Richard Germain, qui avait tué sa copine en 2000, et maintenant, en réinsertion sociale, il est en liberté. Puis il tue son père, puis il se suicide après. Comment qu'on fait pour échapper à ça?
Bien, ça, c'est des questions qu'on se pose après, à savoir comment on aurait pu prévoir ça. Il y a un film là-dessus avec Tom Cruise, Minority Report. Ah, il oui. arrête les gars oui. avant que ça arrive.
Avant que ça arrive, c'est vrai.
C'est ce que je te répondrais. mais tantôt, tu disais ancien meurtrier. Un meurtrier reste un meurtrier à vie.
C'est vrai, ouais. c'est pas un ancien meurtrier, t'as raison.
Puis légalement, je t'explique pourquoi.
Ouais.
Okay? Tu peux être accusé de meurtre premier degré, condamné meurtre premier degré, pas pour délibérer, ça dit que t'es là, prémédité avec une forme de préparation. Ça, c'est prison à perpétuité. Fait que perpétuité, c'est pour toujours. Pas de libération conditionnelle avant 25 ans.
Ouais.
Ça, c'est une situation. Tout ce qui n'est pas un meurtre premier degré est un meurtre 2 quand c'est un meurtre. Ça, la période d'admissibilité peut varier. Puis tu as l'homicide involontaire coupable. Ça, la porte s'ouvrira un jour. 7, 8, 9, 10 ans. Ta peine sera finie comme n'importe quelle autre peine. Comment ça marche, Commission des libérations conditionnelles canadiennes? Dans le cas de peu importe qui a été condamné à meurtre, meurtre premier, lorsque la période d'éligibilité.
D'éligibilité. Tu regardes. Même avec les lunettes, là, ça l'est. Hein?
Ça n'a ça a pas aidé.
Non,
hein?
Non, c'est ça.
Ça a fargé un peu. Si j'avais fait le 110 mètres, il y en a une qui tombait là. Là. Mais quand tu arrives à cette période-là, la personne, généralement, sont accompagnées des avocats carcéralistes qu'on appelle, qui sont spécialisés dans le droit carcéral, c'est-à-dire la gestion de l'incarcération, comment ça, le temps de vie en incarcération, les respects des règles, des modes de vie, les droits des détenus, etc., etc., et la préparation à la remise en liberté conditionnelle. Dans le cas d'une personne qui est condamnée pour un meurtre premier, automatiquement, de ce que j'en sais, puis là, je m'avance, puis vos auditeurs, les auditeurs, soyez indulgents. S'il y a des avocats carcéralistes qui disent, ben, mais ils s'en sont dit des bêtises. Ouais.
88-971-102.
Ouais. Exactement. Ou appelez-moi, laissez-moi un message. Mais là, il va y avoir une gestion de cas. Pour un meurtre premier, il existe une procédure exceptionnelle après 15 ans, ou ce qui était dans le code à l'époque, là, peut-être toujours, c'est que tu peux t'adresser à un grand jury, c'est-à-dire il constitue un jury, puis demander la personne qui est condamnée à prison à vie, peut-elle demander avant 25 ans une éligibilité à une libération conditionnelle? Moi, j'ai déjà représenté une personne extrêmement dangereuse.
Ah ouais?
Soit, elle fait 28 ans qu'elle était en prison, puis elle était cotée USD, unité spéciale de détention.
Fait que ça veut dire que ça brasse
ça,
encore.
Ça, c'est le super max. C'est, t'as pas idée, là, on est ailleurs. Puis, de ce qu'il m'expliquait, moi, je dis, monsieur, ben là, votre plan d'avenir, il dit, écoute, ça fait 28 ans que je suis dans l'avenir, elle est pas mal finie. Puis il y avait toutes sortes de problèmes. Puis bref, les crimes violents à l'intérieur des murs. Il m'expliquait si j'avais un comportement exemplaire dans ma situation actuelle, j'aurais 15 ans pour me rendre à être éligible à m'adresser. Parce que tu pars de super max, après tu vas descendre la cote de sécurité après le comportement. Max, médium, minimum, sortie avec escorte, sortie sans escorte. Puis là, tu es rendu à justement à prendre la décision, la fameuse décision risquée.
Oui.
Ce qui est touché, comme tu dis, là, ceux qui ont échappé, ou qu'on a l'impression que ça a été échappé, des fois, c'est des choses qui sont imprévisibles. Tu vas avoir affaire, admettons, à des gens qui ont des traits de personnalité, surtout psychopathes, sociopathes, psychopathes. Ils peuvent te démontrer qu'ils sont devenus, qu'ils ont trouvé Jésus.
Puis ils vont tout faire. Oh.
Pendant 20 ans, puis ils vont le tenir, puis tu vas les avoir cru. Les changements de personnel, on regarde un dossier. Tu remarqueras quand il arrive un crime hideux, ignoble, on peut l'appeler comme ça, tout le monde est choqué. Mais après un certain temps, une semaine, deux, trois semaines, tout a été relativisé. Fait qu'à chaque fois qu'une personne, puis ça, quelqu'un m'expliquait ça, il dit, on doit aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui est récent? Quel genre de comportements sont faits? Oh, attention! Par exemple, il y a eu une affaire assez célèbre il y a deux ans, je crois, l'histoire d'Eustachio Galès. Mm-hmm. Oui. Ça, c'est un exemple quand même assez clair où est-ce qu'il y avait un risque. Puis probablement, de ce que j'en ai su, bon, il y avait une permission qui avait été donnée à ce monsieur-là.
Ouais, d'avoir une prostituée, là, si je me souviens bien.
C'est ce qui est allégué. Puis on se demande après, ben pourquoi?
Ouais.
Ben oui.
Là-dedans, bon, ben la personne qui a analysé le dossier, peut-être le matin, ou tu sais pas ce qu'ils vivaient cette journée-là, tu sais pas ça, comment ça allait à la maison, tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont lu. Ils ont peut-être dit, écoute, bon, ben regarde, c'est pas la même chose, c'était sa conjointe ou son ex-conjointe. Là, on est ailleurs. Ça reste qu'il y a un facteur qui est commun à ça, c'est une femme.
Ouais.
Fait que ce bout-là, c'est quand tu dis prendre des risques, il y a des fois, il y a des résultats qui sont aberrants, mais il faut toujours que tu dises, c'est la loi qui va primer quand la personne est habilitée à faire sa demande, puis que son dossier, dire, écoute, moi, j'ai fait 20 ans de prison, la personne a fait ci, fait ça, fait ci, fait ça, puis tu regardes, il n'y a pas de violence en dedans, c'est un crime violent, la personne l'a reconnu, elle a cheminé, elle a présenté des excuses. C'est pas toutes des psychopathes non plus.
Ouais. Non, exactement.
T'sais, quand tu dis la personne doit vivre avec les crimes commis pour le reste de sa vie, puis ça fait partie de la reconnaissance en détention. Quelqu'un qui va toujours nier son innocence, qui va toujours clamer son innocence, alors que la preuve est directe, il y a 4 personnes qui l'ont vu, c'est le vidéo, non, c'est pas moi. Bon, mais cette personne-là va probablement avoir plus de misère. Ouais. Puis passer le 25 ans, si tu te qualifies pas, ben c'est les raisons pour lesquelles l'autre personne était là depuis 28 ans.
Mm-hmm. Puis évidemment, dans les médias, on va entendre toujours l'histoire de le criminel qu'on a échappé. L'histoire qu'on a échappé, puis pas toutes les histoires à succès de réhabilitation.
Ben oui, puis de plus en plus avec les médias sociaux, puis comme l'information voyage, c'est un phénomène qu'on voit là, ces temps-ci. On a l'impression qu'il y a des nouvelles choses qui se passent dans la société, des affaires violentes, ultra-violentes, alors que c'est plutôt des choses dont maintenant on parle, qui sont documentées visuellement, que les gens sont au courant, mais qui se passaient avant.
Ça a toujours existé.
Fait que ça donne quand même un phénomène qui peut avoir l'air d'être un phénomène d'amplification au départ. Mais puis ça fait un peu pump-up de jam, tu comprends ce que je veux dire? C'est que un peu, c'est ça. Alors que des fois, se poser la question, est-ce que c'est des phénomènes préexistants qui existaient seulement qu'on ne parlait pas? Ça demeure que plus tu es confronté à certains phénomènes, plus tu en prends conscience. Donc, ce qui est arrivé dans l'affaire Galaise, probablement que la Commission des libérations conditionnelles canadienne a fait un instant, là. Va falloir revoir nos balises, va falloir revoir nos règles, les chances qu'on prend, parce que tu peux avoir quelqu'un qui va être extrêmement séducteur puis qui va te persuader de telle chose. Puis là, la personne va embarquer là-dedans, puis après, ça servait d'autre fin.
Tellement... toujours tellement intéressant avec Maître Didier Sanson, notre maître métal. Et c'est drôle, pendant cette discussion-là, j'ai pris 2-3 notes d'autres questions qu'on va t'envoyer pour dans 2 semaines quand tu vas repasser nous voir.
Bon, ben ça me fait plaisir. Maintenant, vous pouvez sortir de vos chars et rentrer punché.
Hey, puis on va s'en reparler lundi, mais devinez qui est l'invité de Reg Laplanche backstage lundi.
Maître métal.
Oui, tellement une histoire. On part dans toutes les directions. On parle de ton parcours, on parle de musique, on parle de comment tu es arrivé justement à être avocat aussi. Une super discussion à ne pas manquer lundi soir, 19h, et ensuite disponible sur les différentes plateformes, dont notre chaîne YouTube. Didier Sanson, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Puis un beau choix de lunettes.
Oui, ouais,
ça
fait
bien. Vraiment bien, mon chum.
Ça calme.
Ouais. À bientôt.